À l'Assemblée ordinaire du Conseil d'administration du RTC du mercredi 11 février 2026. Donc, je remercie les gens. Je souhaite bienvenue et je remercie pour les gens qui sont présents à l'Assemblée. Et en ouverture de séance, nous avons le premier point, le deuxième point, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai des proposeurs, M. Elmaé et M. Bourdeau, ici, oui, je vais vous chercher. Donc, merci pour la proposeur et appuyeur. Après ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont une déclaration d'intérêt à effectuer? C'est complet, la déclaration d'intérêt. Point 4, question du public. Allez-y, madame, on est...
Je n'ai pas parlé si vite.
Oui, puis juste de vous demander de vous nommer pour le compte rendu.
Virginie Gilbert-Couture, je suis présidente de la Ville de Québec dans le district de la Pointe de Sainte-Foy. Okay. Dans le fond, l'objet de mon intervention, c'est de vous parler de la modification de certains parcours d'autobus du RTC à compter du 21 mars prochain, puis de leurs impacts sur les élèves de Rochebelle, la Pointe de Sainte-Foy, qui n'ont pas droit au transport scolaire. Je vais essayer d'être brève, là, mais il faut quand même juste que je vous mette en contexte, c'est que la politique de transport du Centre de services scolaires des Découvreurs prévoit que l'élève du secondaire qui réside à moins de 2 km n'a pas droit au transport scolaire. Donc, les élèves qui n'ont pas droit au transport scolaire se déplacent soit à vélo, soit à pied, soit en transport en commun. Puis, en ce qui concerne le transport à pied ou à vélo, quand on est à la Pointe de Sainte-Foy pour se rendre à Rochebelle, bien, ça se passe essentiellement sur le boulevard Nielsen et le boulevard Hochelaga. Il n'y a pas de piste cyclable sur le boulevard Hochelaga entre le parc Raymond de Rosa et l'école de Rochebelle. Enfin, il y a une piste cyclable du ministère du Revenu jusqu'au parc Raymond de Rosa, puis une autre de Rochebelle jusqu'à l'Université Laval. Il y a un trou de piste cyclable là, entre les deux. Puis l'abandon du projet, de la phase 2 du projet là, de réaménagement de la tête des ponts par le MTMD semble paralyser là, le développement d'une piste cyclable à cet endroit-là. Ce qui fait que ce parcours-là, il est plus ou moins sécuritaire pour le déplacement à pied et à vélo parce que, faute d'espace sécuritaire sur la chaussée, les vélos circulent sur le trottoir. Donc, les piétons puis les vélos se partagent un trottoir régulier, c'est-à-dire étroit, ce qui fait que c'est peu sécuritaire. Donc, il y a beaucoup de jeunes de la Pointe de Sainte-Foy qui n'ont pas accès au transport scolaire, qui prennent l'autobus pour des raisons de sécurité. Puis l'hiver, en raison du froid, de la neige, des intempéries, prennent davantage l'autobus. Les marcheurs et les cyclistes prennent davantage l'autobus juste à cause des intempéries, de la température hivernale. Là, dans le fond, moi, ce que j'ai regardé, là, les changements qui sont prévus dans les parcours d'autobus avec la carte interactive, je constate que le parcours 11, qui est très emprunté par ces élèves-là de Rochebelle dont je vous parle, il est fusionné avec le parcours 25, mais c'est une fusion, en fait, qui va essentiellement passer sur le chemin Saint-Louis. Donc, il n'y aura plus de passage là, comme c'est actuellement, c'est-à-dire sur le boulevard Nielsen, puis Hochelaga pour poursuivre ensuite là, vers l'est, là, vers Québec. C'est le parcours qui est emprunté par les jeunes dont je vous parle. Là, j'ai étudié les nouveaux parcours qui vont fonctionner à partir du 21 mars. Je constate que les parcours 91, 92 et 94, qui sont en provenance de Cap-Rouge-Saint-Augustin, vont sortir de Duplessis sur Marcourt. Marcourt qui se trouve à l'ouest, directement à l'ouest là, de Duplessis, vont se rendre sur le boulevard Nielsen puis tourner sur Hochelaga en direction est. Donc, ils vont correctement desservir, là, dans le fond, la Pointe de Sainte-Foy, les élèves qui sont à moins de 2 km, dans le fond, de Rochebelle, ils vont pouvoir prendre ce parcours-là. Par contre, ça, c'est le parcours en direction est qui va fonctionner le matin. Mais en fin de journée, le parcours toute la journée, mais en direction ouest, donc qui retourne de l'Université Laval vers Cap-Rouge-Saint-Augustin, il n'emprunte pas le même chemin. Il prend Hochelaga puis il prend directement la bretelle pour Duplessis pour, après ça, se diriger vers Cap-Rouge-Saint-Augustin. Donc, il ne dessert plus les gens de la Pointe de Sainte-Foy. Il ne se rend pas, dans le fond, jusqu'à la lumière dépassée du Plessis puis pour prendre Marco. Donc, moi, la demande que je viens faire aujourd'hui, c'est de peut-être avant que ces parcours-là là, fonctionnent le 21 mars, de peut-être revoir en ayant, mais pas peut-être, je vous le demande, de revoir ces parcours-là, de prévoir une légère modification pour permettre de desservir ces jeunes-là qui sont contraints de marcher ou d'aller à vélo à cause de la politique du Centre de services scolaires des découvreurs, qui avaient droit au transport en commun jusqu'à maintenant, que là, ils ne seront plus desservis par le transport en commun. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos jeunes croient au transport en commun, qu'ils croient que c'est possible de se déplacer comme ça, puis qu'ils ne soient pas dépendants des parents pour avoir un parcours sécuritaire. Donc, je pense qu'il s'agirait de faire une légère modification. Peut-être que les parcours 91, 92, 94 prennent plutôt, se rendent plutôt jusqu'à la pointe de Sainte-Foy, là, juste après Duplessis, qu'ils prennent Maricourt, puis qu'ils reprennent Duplessis par quatre bourgeois, là, un petit peu plus loin. Ça permettrait de desservir aussi les gens sur Maricourt. Après, ça, c'est une suggestion, c'est vous qui connaissez les moyens là, adéquats, mais de ne pas oublier ces jeunes-là qui, dans le fond, n'ont pas accès au transport scolaire. Puis de ne pas oublier que, dans le fond, le trafic va augmenter là, sur Hochelaga en raison des travaux.
Des travaux, exact.
Donc, c'est d'autant plus important de les sécuriser.
Merci. Vous avez, on comprend très, vous avez été très clair dans les préoccupations. J'ai vu M. Gérard pour compléter qui a pris des notes, là, juste globalement, là, vous savez, il y a plusieurs paramètres à considérer. Je pense que c'est un élément à laquelle on va l'analyser. Je vais laisser M. Gérard compléter, mais globalement, là, la logique, c'était pourquoi on avait séparé les parcours, c'était de garder de la stabilité là, au niveau là, de la fiabilité, au niveau des parcours. Fait avoir des parcours qui chevauchaient le chantier, ça aurait été compliqué sur le plan de la fiabilité et de la prévisibilité. Ceci étant dit, je sais que vous amenez quelque chose qu'on va s'adresser, là, l'aspect de Hochelaga sur la sécurité piéton et cyclable, mais en même temps, vous le savez, vous connaissez le coin, c'est pas il y a un enjeu d'espace là, qui est problématique, puis ça prendrait une reconfiguration avec le ministère du Transport pour avoir quelque chose de vraiment efficient, mais là, présentement, on va regarder qu'est-ce qu'on a sur ce niveau-là. Fait que moi, je le prends en note sur le plan de la ville, le plan de la mobilité, sécurité piéton et cycliste, puis je vais laisser M. Gérard là, vous préciser des éléments, puis on va vous revenir là, si on a vos coordonnées.
Bien, premièrement, là, merci pour votre question puis aussi vos commentaires. Ce que je vous propose, en fait, ma collègue ici va prendre vos coordonnées puis on va entrer en contact avec vous là, pour bien s'assurer de bien comprendre le besoin puis regarder avec nos équipes là, s'il y a certaines solutions qui sont envisageables. Mais merci de nous avoir sensibilisés à cet enjeu-là aujourd'hui. Je vais faire le suivi avec mon équipe.
Parfait. Merci.
Il y avait d'autres questions du public. Ça compléterait le point 4. Nous sommes rendus au point 5, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 3 décembre 2025. Est-ce que j'ai Mme Giguère pour appuyer et Mme... Ici, vous excusez, mais j'ai des problèmes visuels aujourd'hui. Mme Lucie Leblanc pour seconder. Ensuite, point 6, approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 27 janvier 2026. Est-ce que j'ai l'appui, M. Allais, et pour seconder, M. Bourdeau. Ensuite, point 7, dossier soumis au conseil d'administration du RTC du 11 février 2026. Premier point, sur le développement du réseau expérience client, on a à 7.1, une modification de parcours, qui est le parcours 12, pour assurer la fluidité de l'autobus dans le coin du Chul. Est-ce que j'ai quelqu'un pour venir l'appuyer? Ah, oui, je laisse Mme Deschênes lire la résolution. Merci.
Alors, il est recommandé de procéder à la modification du tracé du parcours 12, détaillé au document joint en annexe du présent sommaire, pour valoir comme partie intégrante de la présente recommandation, et ce, à compter du 20 juin 2026.
Donc, M. Allais et Mme Sans-Façon, merci. Et le point direction générale, le 7.2, adoption du calendrier des assemblées ordinaires pour l'année 2026, incluant l'assemblée de février 2027.
Il est recommandé d'adopter le calendrier des assemblées ordinaires du conseil d'administration du RTC pour l'année 2026, ainsi que pour la première assemblée de l'année 2027, telle que détaillée au document en annexe du présent sommaire pour valoir comme partie intégrante la présente recommandation.
Donc, Mme Drapeau propose et Mme White appuie. Merci. 7.2 est adopté. Nous sommes rendus expertise d'affaires. 7.3, emprunt obligataire. Alors, Mme Deschênes.
Oui. Il est recommandé d'approuver le projet de résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 20 789 000 $ qui sera réalisé le 20 mars 2026, tel qu'en fait foi le document joint en annexe du présent sommaire pour valoir comme partie intégrante de la présente recommandation et autoriser la secrétaire générale à signer une copie conforme de cette résolution comme ayant été adoptée par le conseil d'administration du RTC.
Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour venir l'appuyer? M. M. Mallet et, secondé, Mme Lepage. Merci. 7.3 complété. Nous sommes rendus à 7.4, majoration des échelles salariales applicables au personnel cadre professionnel et administratif, entre parenthèses non syndiqués, ainsi qu'au cadre supérieur pour l'année 2026, 2027 et 2028.
Il est recommandé de majorer de 4 % les échelles salariales applicables au personnel cadre professionnel et administratif non syndiqué, ainsi que de 3 % les échelles salariales applicables au cadre supérieur pour l'exercice financier 2026, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2026, de majorer de 3 % les échelles salariales applicables au personnel cadre professionnel et administratif non syndiqué, ainsi qu'au cadre supérieur pour l'exercice financier 2027, ainsi que pour l'exercice financier 2028 de 3 %.
Donc, est-ce que Mme Giguère propose et M. Lebailly appuie? Point 7.4 est entériné. Nous sommes rendus au point divers. Est-ce qu'il y a des points dans divers? Non. Point 9, période d'intervention des membres du conseil. Pas d'intervention. Point 9. Alors, au point 10, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. Madame Sans-Façon et Madame Leblanc, seconde. Donc, ça compléterait pour cette Assemblée générale du 11 février 2026. Je remercie tout le monde et ceux qui ont assuré la préparation. Merci.
Merci. Merci.